Bienvenue dans Le Débat. Imaginez, juste un instant, le 22 mai 1998. Les bureaux de vote s'ouvrent en Irlande du Nord, dans un silence qu'on n'avait pas connu depuis 30 ans.
Plus d'alerte à la bombe, plus de patrouilles militaires.
Exactement. Juste des électeurs qui attendent patiemment pour se prononcer sur l'accord du Vendredi Saint. Personnellement, je suis convaincu que ce scrutin massif est la victoire fondatrice de la démocratie sur la violence, le moment où la société a définitivement rejeté la guerre civile.
Eh bien, moi, j'aborde les choses sous un angle différent. Je suis persuadé d'une chose. Si le silence de cette journée est historique, après, disons, plus de 3 500 morts, je vois ce vote moins comme une victoire absolue que, franchement, comme une paix de façade.
Une paix de façade, vraiment.
Oui, un compromis dont les fondations institutionnelles étaient, dès le départ, extrêmement instables.
Instable? Je ne sais pas. Les chiffres de ce jour-là racontent pourtant l'histoire d'un épuisement total face à la guerre et d'un consensus clair.
Ah, les fameux chiffres.
Bah oui, on part d'une participation exceptionnelle de 80,1% en Orientland. Des avions entiers ont même été affrétés pour ramener des expatriés aux urnes.
C'est vrai, l'engouement était là.
Et les résultats sont, écrasants. 71% de oui en Irlande du Nord et plus de 94% en République d'Irlande. Les urnes ont tout simplement fait taire les armes.
Alors oui, ces pourcentages globaux sont très séduisants, mais si on décortique le mécanisme de ce vote nord-irlandais, l'architecture est beaucoup plus inquiétante.
Dans quel sens?
Eh bien, environ 96% des catholiques ont voté pour l'accord. Mais chez les protestants,
C'est une infime majorité. À peine 51 à 53%, c'est qu'il reste une majorité, techniquement.
Techniquement, oui. Mais ce n'est pas un véritable consensus. Il y avait une réticence viscérale, car cet accord exigeait d'avaler une pilule incroyablement amère pour garantir la paix.
Vous parlez du coût moral de l'accord. C'est vrai que si je me mets à la place de l'électeur de l'époque, on leur demandait quand même d'accepter la libération anticipée de centaines de paramilitaires.
En l'espace de seulement 2 ans, oui.
Voilà. On parle d'hommes responsables d'attentats meurtriers. C'est un choc émotionnel terrible.
Exactement. Pour beaucoup de familles de victimes, ce n'était pas une victoire, c'était une déchirure totale. C'est précisément pour cela que le révérend Ian Paisley sillonnait la Provence.
Avec son fameux discours.
Oui, il lisait les noms des victimes de l'IRA à haute voix, en hurlant que voter oui revenait à signer un, je cite, pacte avec le diable. Pour convaincre les paramilitaires de déposer les armes, il a bien fallu sacrifier une part de justice pénale.
C'est un point valide, mais la campagne a aussi su créer l'électrochoc inverse. Pensez à ce moment iconique au Waterfront Hall de Belfast.
Vous voulez parler du concert d'hier?
Oui, Bono de U2 qui lève ensemble les bras de l'unioniste David Trimble et du nationaliste John Hume.
Ah, la fameuse photo.
Mais oui, devant une foule de jeunes catholiques et protestants mêlés. C'était la preuve visuelle, l'électrochoc émotionnel nécessaire pour montrer que le clivage pouvait être surmonté.
C'est une belle image, je vous l'accorde. Mais elle tentait désespérément de masquer la mécanique même de l'accord du Vendredi Saint. Trimble perdait la moitié de ses propres députés en interne.
C'est vrai que politiquement, c'était très tendu.
Et surtout, comment l'accord fonctionnait-il sur le plan légal?
On a instauré ce qu'on appelle le consociationalisme, un gouvernement partagé obligatoire. Pour qu'une loi passe, il fallait une majorité au sein des deux communautés.
Donc, pour rassurer tout le monde et empêcher qu'une communauté ne domine l'autre, on a gravé la division sectaire dans la loi elle-même. Chaque élu devait s'enregistrer comme unioniste, nationaliste ou autre.
Exactement.
C'est un peu comme mettre un plâtre sur une jambe fracturée. Sur le moment, ça arrête l'hémorragie et ça stabilise l'os pour éviter le pire.
Oui, c'est une très bonne analogie.
Mais si on le garde pendant des décennies, le muscle s'atrophie. En fait, on a figé l'identité des électeurs. Totalement. En forçant la coalition, on a paralysé le système. Les modérés ont fini par être balayés par les lignes dures de Paisley. Les gouvernements se sont effondrés à de multiples reprises.
Plusieurs fois, oui.
Et 25 ans plus tard, les murs de la paix de Belfast sont toujours là. Ces immenses barrières de béton qui séparent les quartiers sont fermées à clé chaque soir pour éviter les violences.
C'est indéniable. Et pourtant, le processus, tout imparfait qu'il soit, a tenu bon face aux pires épreuves. Moins de 3 mois après le vote, la vraie IRA perpétrait l'attentat d'Omagh.
29 morts, une tragédie absolue.
Oui, une tragédie qui, dans le passé, aurait immédiatement relancé la guerre. Là, l'accord a survécu et a marginalisé définitivement ces dissidents armés.
Il a survécu, oui, mais parce que le compromis a dépassé les frontières du Nord. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au Sud.
Vous parlez du vote en République d'Irlande.
Oui.
Les électeurs du Sud ont dû voter massivement pour modifier les articles 2 et 3 de leur propre constitution.
C'est-à-dire concrètement ?
L'abandon de leurs revendications territoriales historiques sur les rangs du Nord.
Précisément. Ils ont dû renoncer légalement à l'idée d'une île unifiée. Le rêve même sur lequel leur État moderne s'était fondé.
C'est un sacrifice énorme.
Tout ça pour reconnaître que le Nord resterait britannique tant qu'une majorité le souhaiterait. C'est ce niveau de sacrifice systémique, et non juste une poignée de main chorégraphiée, qui a maintenu l'édifice debout.
Ce qui nous amène à réaliser que la paix, bah, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie.
Ni un concert qu'on prend en photo.
Non, c'est un processus très complexe, exigeant des renoncements colossaux. Qu'on voit ce référendum de 98 comme un triomphe démocratique ou, comme vous le dites, une trêve institutionnalisant la division, il reste le premier souffle d'une société qui apprenait, dans la douleur, à vivre sans armes.
Exactement. Et la question de savoir si le plâtre peut un jour être retiré reste, elle, entièrement ouverte.
Tout à fait. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. À la prochaine.